la consommation d'alcool avec Hubert Sassy, lui, directeur général d'Éducalcool. Il est en ligne. Hubert Sassy, bonjour.
Bonjour.
On parle aujourd'hui de consommation d'alcool chez les personnes âgées en lien avec un document que vous avez publié, une étude en fait que l'on retrouve sur votre site où on peut y lire quelques statistiques qui sont quand même assez préoccupantes, à savoir que en 2016, 18 % des personnes de 65 ans et plus consomment peut-être une grande quantité d'alcool. On y reviendra sur cette quantité-là bien exactement. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de voir que à travers les années, cette consommation d'alcool inquiétante pourrait augmenter, à savoir 24 % en 2026 et 30 % en 2051. Qu'est-ce qui pourrait expliquer d'abord ces chiffres-là, Hubert Sassy?
Il faut savoir que les baby-boomers, qui sont une génération qui ont eu beaucoup plus d'argent que leurs parents, avaient développé, quand ils étaient sur le marché du travail et dans leur vie sociale, des habitudes de consommation. Prenez un verre ou deux. Il y avait l'alcool a beaucoup fait partie de la vie en société. Je ne vous parle pas évidemment des repas d'affaires et autres, etc. Et ces gens-là, en vieillissant, ils ont pris leur retraite, ils ont vieilli, ils ont atteint un certain âge et ils ont continué à garder les mêmes habitudes de consommation. Mmh. Alors qu'en réalité, à partir du moment où on prend de l'âge, et je ne dis pas où on vieillit, mais passé 65 ans, la quantité d'eau dans le corps diminue et par conséquent, l'alcool fait un effet beaucoup supérieur que lorsqu'on est plus jeune. Le deuxième élément, c'est que lorsqu'on vieillit, on a un certain nombre de symptômes qui arrivent et qui devraient nous donner des signaux si nous étaient arrivés plus jeunes. Mais comme on est vieux, on attribue ça à la vieillesse et on n'attribue pas ça nécessairement à la consommation d'alcool. Autrement dit, les signaux qu'on reçoit lorsqu'on est jeune et qu'on consomme trop et qui nous disent « oh, fais attention », on les attribue à la vieillesse au lieu de l'attribuer à l'alcool, ce qui fait que ça fausse la perception.
Ouais.
Alors, ces deux facteurs combinés, donc les moyens, davantage de moyens, davantage d'argent dans leur poche et des habitudes de consommation, plus une mauvaise interprétation des signaux, ben, ça fait en sorte que, maintenant, on ne dit pas qu'il y a les gens qui ils sont sous morts toute la journée, mais que la consommation excessive augmente en termes de pourcentage de gens qui boivent au-delà des limites recommandées.
Oui. Est-ce que ces chiffres-là vous ont étonné, Hubert Sassy?
Non, pas vraiment. On voyait la tendance arriver. Vous savez, ce qui est intéressant lorsqu'on étudie les phénomènes à plus long terme, c'est qu'on les voit venir. À partir du moment où les premières personnes qui sont nées après la fin de la Deuxième Guerre mondiale ont commencé à prendre leur retraite, on a commencé à voir cette espèce d'augmentation, mais au départ, on n'est pas sûr à quoi on peut l'attribuer, on n'est pas en mesure de la chiffrer de manière précise. À partir du moment où on a 5, 6, 7, 8, 9 catégories d'âge qui sont rendues, là, ça devient un peu plus facile et on peut dire, bon, ben voilà, il y a une tendance qui est là. Encore une fois, c'est très, très important de faire attention, d'être vigilant, de suivre les tendances et surtout d'indiquer aux gens, de donner aux gens des conseils qu'ils sont libres de suivre ou pas, évidemment, c'est comme ils le souhaitent, mais au moins de les informer et de les éclairer sur la situation.
D'ailleurs, ce fascicule d'informations que l'on retrouve sur votre site, ou plutôt cette étude, elle s'adresse, oui, bien sûr, aux personnes aînées, mais également à leurs proches. Hein? C'est ce que vous tentiez de viser.
Ah oui, absolument. Les proches de la famille, les proches aidants. Mm-hmm. Et parce que il faut savoir que il y a un certain nombre de phénomènes qui sont caractéristiques des personnes âgées. La première, et il ne faut pas qu'on oublie de le dire, c'est qu'il y a de manière assez systématique de la médication qui est prise. À partir de 55-60 ans, il y a 80 % des gens prennent au moins un médicament par jour, que ce soit pour le cholestérol, que ce soit pour le diabète, que ce soit pour enfin toutes sortes de raisons. Par conséquent, il y a une interaction entre les médicaments et l'alcool. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de boire de l'alcool, ça veut dire qu'il faut être attentif à ça. Et donc, pharmaciens, infirmières, mes proches aidants aussi, et la famille. Pourquoi? Parce que les personnes âgées, ou les aînés, il est préférable de les appeler ainsi, sont des gens qui sont extrêmement soucieux de l'image qu'on a d'eux. Ils veulent voir leurs enfants ou leur famille et ils se disent, il ne faut pas que je chiale trop parce que si je me plains trop souvent, eh bien peut-être qu'ils ne voudront plus venir me voir. Par conséquent, il y a une espèce de réserve qu'il y a à exprimer ce que l'on ressent. On ne veut pas déranger. On devient de plus en plus délicat. On n'ose pas poser de questions ou on n'ose pas faire part des craintes pour ne pas paraître chialeux un peu. Et par conséquent, c'est très, très important d'aller au-devant des coups et d'essayer de leur poser des questions. Les soignants, les médecins, les infirmières doivent poser des questions aux aînés sur leur consommation, sur les symptômes qu'ils ressentent peut-être liés à cette consommation-là. Mm-hmm. Et les jeunes, les plus jeunes, doivent être très, très attentifs au changement de comportement, au silence qui a lieu. Bref, être à l'écoute davantage, non pas des mots que les gens expriment, mais de ce qu'ils tentent de vivre sans nécessairement le dire.
Je vous écoute, Hubert Sassy, et je me dis ce désir de ne pas vouloir déranger amène peut-être aussi à ne pas refuser une consommation d'alcool, à vouloir reproduire les habitudes de vie que l'on avait avant, même s'il y a consommation de médication ou il y a un changement dans l'état de santé qui ne nous permet plus de consommer de l'alcool.
Il y a effectivement ça. Il y a aussi le fait que, pour des gens, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que passé 65 ans, c'est mieux vraiment de te limiter à 2 verres par jour pour les femmes et à 3 pour les hommes. Mm-hmm. Mais vraiment, sans exception, avec au moins 1, sinon 2 journées d'abstinence par semaine. Maintenant, ils ne le savent pas, par conséquent, ils ne le pratiquent pas. Ensuite, il y a effectivement ce qu'on appelle l'environnement social, la pression sociale. Mm-hmm. Le fait de dire qu'on ne refuse pas. Et il y a enfin une troisième chose que vous connaissez sans doute, c'est l'espèce de légende urbaine qui veut que les gens qui vivent 100 ans, ben, c'est parce qu'ils ont pris le petit verre de gin à tous les jours pendant je ne sais pas combien d'années.
C'est vrai, etc. Qu'on entend ça parfois.
Ben, oui, bien sûr, il y a cette espèce de légende urbaine. Ceci dit, ça ne fait pas de tort de prendre son petit verre de gin par jour, là, mais ce n'est pas pour ça qu'on a vécu 100 ans. Il ne faut pas boire de l'alcool comme on prend un médicament. Là. L'alcool, ce n'est pas un médicament, puis les magasins d'alcool, ce n'est pas des pharmacies. Mm-hmm. On boit de l'alcool parce qu'on aime ça, parce qu'on trouve que c'est agréable, et on le boit avec modération. Quand on est une personne aînée, on fait attention à la médication qu'on prend, on s'exprime, parce qu'eux aussi, s'ils s'exprimaient, ça aiderait beaucoup, et quand on s'en occupe, soit parce qu'on les soigne, soit parce qu'on est de leur famille, on pose des questions et on est très attentif.
Je veux revenir sur les facteurs qui poussent les personnes aînées à consommer de l'alcool de façon dangereuse. Vous avez parlé tout à l'heure, Hubert Sassy, de tout ce qui est lié aux facteurs socio-économiques, des habitudes de vie que l'on avait pendant la vie active. Mais il y a aussi l'isolement qui peut être mis en cause, mais également la retraite mal planifiée.
Oui, parfaitement. Alors là, vous avez utilisé un mot, consommation dangereuse. Et on a utilisé les mots consommation excessive. Avec votre permission, on va distinguer les deux.
Oui.
La consommation excessive, on en est conscient. On sait qu'on boit. La consommation dangereuse, on n'est pas conscient. Mm-hmm. C'est dangereux, mais on ne le sait pas. Il n'y a personne qui fait exprès nécessairement en se disant « je vais me nuire à moi-même ». Donc, par exemple, pour des personnes qui prennent un certain nombre de médicaments et qui prennent de l'alcool, ça peut être dangereux, pas parce qu'elles ont trop bu, mais simplement parce qu'il ne faut pas boire avec ce médicament-là.
Ouais.
Cela dit, effectivement, vous avez parfaitement raison de souligner les autres facteurs qui sont des facteurs d'ordre psychologique. Par exemple, il y a un couple, ils ont vécu toute leur vie ensemble, ils ont été extrêmement heureux, il y en a un qui meurt. La sensation de solitude et de peine qui arrive au second, à celui au survivant des deux, ça peut être un facteur de consommation excessive d'alcool. L'ennui. On n'a pas planifié sa retraite. On avait l'habitude de partir pour le travail à 7 heures du matin, de rentrer à 6 heures du soir. On était actifs. On a mal préparé sa retraite. On ne s'est pas mis des activités. Et là, les deux premiers mois, c'est le bonheur total parce qu'on ne fout rien. Et après, on commence à s'ennuyer à mort parce qu'on ne fait rien non plus.
Ouais.
Alors, ça aussi, là, la préparation à la retraite, quitter le marché du travail. Écoutez, on passe au moins le tiers de notre vie à notre boulot. Lorsque ce tiers-là est amputé, et qu'on n'a pas préparé une transition vers le remplir le temps qui va être libéré par le fait qu'on n'est plus au travail, et je dis le tiers, pour bien des gens, c'est des fois peut-être plus que le tiers de leur travail, ça crée un vide immense, et il ne faut pas combler ce vide-là par l'alcool, il faut le combler par des activités.
Oui. Et par un réseau social qui est riche, qui manque parfois, on a parlé d'isolement, Hubert Sassy, je m'adresse aux proches en ce moment, comment reconnaître qu'un de nos proches, une personne aînée, vit des problèmes de consommation liés à l'alcool?
Alors, il y a 2 ou 3 manières. D'abord, les modifications dans les comportements. Là, c'est vrai que la perte de mémoire, c'est un phénomène qui arrive avec l'âge, mais ça peut être le résultant d'une consommation d'alcool. à s'assoupir. Tu t'endors, tu es en train de parler dans une conversation. Oui, c'est vrai, ça peut être, ça arrive à des personnes âgées qui n'ont pas touché une goutte d'alcool. Mais ça peut être aussi un phénomène comme celui-là. Mais surtout, ce qui est très important, c'est de parler, le dialogue, la communication. Mm-hmm. On pose des questions. Si on voit que les gens sont gênés de répondre, ben ça doit lever un petit drapeau pour dire « Oh, oh, il y a peut-être quelque chose là ». C'est important d'aller vers eux, de leur montrer qu'on se préoccupe de leur sort, d'être très attentif, d'être observateur, si on voit un certain nombre de signaux de cette nature-là. Et évidemment, essentiellement, dialoguer, communiquer, c'est la seule façon. Mais il faut savoir que si les gens veulent cacher des choses, il y a des gens qui ont caché des secrets absolument incroyables toute leur vie, qui les ont emportés avec eux dans leur tombe, mais au moins, les gens autour des personnes aînées doivent faire l'effort d'aller vers eux, de leur poser des questions, de s'intéresser à eux et de leur montrer que par beaucoup d'amour, que c'est que ce qu'on le fait dans leur intérêt, quoi, et non pas par curiosité malsaine.
Vers qui on se tourne si on a besoin d'aide, qu'on soit une personne aînée ou un proche qui vit avec des problèmes de consommation d'alcool?
Alors, ça dépend de la nature de ces problèmes-là. Si ce sont des problèmes de nature médicaux, c'est clair qu'il faut se tourner vers les professionnels de la santé, infirmières, médecins, pharmaciens à la rigueur si c'est un problème d'interaction médicamenteuse. Mais si ce sont des problèmes de dépendance, eh bien là, il faut immédiatement consulter dès qu'on en est conscient. Et le problème, c'est que généralement, quand la dépendance s'installe, on n'en est pas conscient au début. Et par conséquent, à partir du moment où on en devient conscient, ben on consulte ou bien son CLSC ou bien on s'inscrit à un programme qui s'appelle AlcoChoix Plus, qui permet de bien contrôler sa consommation. Allez sur le site de votre CLSC et vous pourrez voir s'il offre le programme et à quel moment. Ça s'appelle AlcoChoix Plus. Et si on est vraiment, vraiment dépendant, ben là, il faut aller dans des centres de traitement de dépendance.
Oui. Et se rappeler qu'il y a des impacts sur la santé, de mélanger alcool, médicaments et, bon, tout ça avec les impacts sur le vieillissement. En terminant, Hubert Sassy, on sait qu'Éduquer Alcool a mis énormément d'attention et d'études sur la consommation des jeunes avec de nombreuses campagnes. Est-ce que vous allez continuer au cours des prochaines années à observer la tendance de consommation d'alcool chez les personnes aînées?
Absolument. Chez les aînés, chez les jeunes et dans la population en général. D'ailleurs, cette année, en 2017, c'est l'année au cours de laquelle nous menons la très, très grande enquête quinquennale que l'on fait tous les 5 ans, depuis 30 ans déjà. Donc, on est capable de suivre l'évolution de la consommation d'alcool des Québécois de tous âges, de tous sexes et de toute région. Et nous allons avoir les résultats quelque part au mois de mai, au mois de juin. Et ça va être vraiment, on va être en mesure de suivre tout ce comment ça s'est déroulé depuis 1991 jusqu'à nos jours à tous les 5 ans.
Hubert Sassy, vous êtes directeur général d'Éduquer Alcool et je rappelle qu'on peut consulter cette étude sur votre site. Ça s'intitule « L'alcool et les aînés » sur éduqueralcool.qc.ca. Merci beaucoup.
Merci infiniment. Bonne journée.
Au revoir.